Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Et c'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre ce soir aux États-Unis. Joe Biden, vous venez de l'entendre, vient de prêter serment sur la Bible. Il devient donc le 46e président des États-Unis.
Et Kamala Harris, la première vice-présidente des États-Unis. On est en direct de Washington dès le début de ce journal avec Xavier Yvon qui suit cette cérémonie pour nous. Joe Biden est en train de prononcer en ce moment son discours d'investiture.
C'est un jour d'espoir, de renouveau. La démocratie l'a emporté, dit-il, et il appelle l'Amérique à l'unité. On l'écoutera et on sera aussi avec Alexis Guilleux aux abords du Capitole.
Et pour Donald Trump, c'est donc terminé. Le président sortant a décidé de bouder la cérémonie d'investiture, mais dans son dernier discours, il a promis qu'il reviendrait.
Europe 1 à l'heure américaine, donc jusqu'à 20h. On n'en oublie pas pour autant la situation sanitaire en France. Pas de nouvelles restrictions, en tout cas pas cette semaine.
Et malgré des projections plutôt pessimistes en raison de la progression du variant britannique.
Qui pourrait pousser les autorités à instaurer un troisième confinement, comme Europe 1 vous le révélait ce matin.
Le tour principal du mondial de handball débute ce soir.
Oui, et on espère que nos Bleus seront en forme face à leur premier adversaire, l'Algérie. La Bourse de Paris, en tout cas, applaudit ce soir. L'arrivée de Joe Biden, elle a terminé en hausse de 0,53% à 5628 points.
Et puis la météo, non pas à Washington, mais bien chez nous en France. Du vent encore demain. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien. Oui, avec 5 départements placés en vigilance orange pour les prochaines heures et demain, la pluie demain va se rajouter à ces forts coups de vent. Les températures restent, elles, très douces. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc un moment historique que nous vivons ensemble ce soir sur Europe 1, cette cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis dans un contexte inédit.
Oui, on est ensemble avec Xavier Yvon, notre envoyé spécial sur place. Joe Biden est donc, Xavier, en train de prononcer son discours d'investiture. Ça y est, nous y sommes.
Oui, c'est en ce moment même, depuis quelques minutes, c'est le discours évidemment le plus important de la vie de Joe Biden. Il y travaille depuis son élection. Il y a dans ce discours un mot phare que Joe Biden répète, c'est unité, unity. Il veut que son mandat soit celui qui va, comme le disait son slogan, restaurer l'âme de l'Amérique. Je mets toute mon âme dedans. Je mets toute mon âme dedans. Il a répété cette phrase plusieurs fois, toute son âme pour réunifier l'Amérique, réconcilier la nation. Venez avec moi, a-t-il dit aux Américains. L'unité, ça va être la grande mission de son mandat. D'ailleurs, sa journée a commencé dans une communion avec les leaders à la fois républicains et démocrates. Ils sont allés tous ensemble à la messe, à la cathédrale de Saint-Andrews, pendant que, et c'est tout un symbole, hein, son prédécesseur Donald Trump lui partait tout seul pour la Floride. D'ailleurs, il y a un contraste aussi dans le discours de Joe Biden qui est apaisant, hein, c'est saisissant par rapport à il y a 4 ans. J'étais à Washington à assister au discours de Donald Trump qui lui était beaucoup plus violent, qui parlait du carnage américain. Et donc, il faut vraiment se rendre compte de ce que ce moment représente. Joe Biden, c'est le plus vieux président jamais investi. Il vit l'apothéose d'une très longue carrière politique, d'une vie traversée de tragédies, la mort de sa première femme et sa petite fille, celle plus tard de son fils aîné. Joe Biden s'est toujours relevé. On le disait en semi-retraite il y a encore 2 ans. Il est retourné en politique pour, encore une fois, sauver l'âme de l'Amérique. Et le voilà intronisé 46e président des États-Unis, entouré de sa famille, de ses petits-enfants et des anciens locataires de la Maison-Blanche, les Obama, les Bush ou encore les Clinton.
Alors ce discours, il est en cours, hein, vous le disiez, Xavier. On va vous retrouver, mais d'abord, on a envie d'écouter la voix sur Europe 1 du 46e président des États-Unis.
At this hour, my friends, democracy has prevailed.
Ce soir, mes amis, la démocratie l'a emporté. En ces lieux même où il y a quelques jours encore, la violence a fragilisé les fondements de ce Capitole. Nous nous rassemblons en une seule nation, indivisible, pour garantir un transfert pacifique du pouvoir comme nous l'avons fait depuis plus de 2 siècles. Je remercie mes prédécesseurs des 2 partis pour leur présence aujourd'hui. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un bon peuple. Et depuis 2 siècles, à travers les tempêtes, les guerres et les paix, nous avons parcouru tant de chemins et il en reste encore en cet hiver de tous les dangers et de tous les possibles.
On vous retrouve, Xavier Yvon, en direct. Tout ça, ce discours dans un contexte tout à fait inédit, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de spectateurs, hein, qui sont remplacés ce soir devant le Capitole par des drapeaux.
Ah bah oui, il suffit de regarder le décor de cette investiture inédite, hein, les marches du Capitole clairsemées, il y a très peu d'invités par rapport à d'ordinaire, à peine 2000, assis sur des chaises à bonne distance les uns des autres, tous portant un masque. On remarque évidemment les absents, Donald Trump hein, qui a boudé la cérémonie, et puis le public, il n'y a personne sur le mall, l'immense esplanade de la capitale. En temps normal, elle serait noire de monde, mais la pandémie et le contexte sécuritaire ont fait qu'elle y est interdite d'accès. Tout à l'heure, le cortège de Joe Biden a remonté les rues de Washington, non pas bordé d'une foule en liesse, mais d'hommes en uniforme et d'immenses grilles de protection, parce que comme Joe Biden l'a rappelé au début de son discours, il y a tout juste 2 semaines, ces marches, cette esplanade du Capitole était envahie dans la violence par les partisans de Donald Trump. Et malgré ce contexte, malgré la pandémie, malgré l'ultra-sécurité, on sent depuis le début de cette cérémonie, sur les visages, dans les réactions, dans les allocutions, comme un soulagement général.
Merci Xavier Yvon, on vous retrouve évidemment en fil rouge depuis Washington toute la soirée dans notre édition spéciale. Biden qui jure à l'instant, c'est une déclaration très importante, de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur. On y reviendra évidemment. Autre ambiance encore un peu plus tôt dans la journée à la Maison-Blanche pour le départ du vaincu, Donald Trump.
Et oui, qui depuis la base d'Andrews, avant d'embarquer pour la Floride, d'abord d'Air Force One, a prononcé quelques mots.
Ça a été 4 années incroyables. Ce que nous avons fait est extraordinaire. Ça a été le plus grand honneur, le plus grand privilège d'être votre président. Je me battrai toujours pour vous, donc c'est juste un au revoir. On vous aime, on reviendra d'une manière ou d'une autre. Bonne vie à vous et à bientôt.
Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir Isabelle.
Pour cette dernière prise de parole en tant que président donc des États-Unis, Donald Trump a été étonnamment sobre hein, et surtout on vient de l'entendre, il a dit que ça n'était pas des adieux.
Oui, nous reviendrons d'une manière ou d'une autre. Ce qui a déclenché, vous l'avez entendu, les applaudissements des 500 partisans à peine rassemblés sur la base aérienne d'Andrews. La moitié de la zone prévue pour le public est restée vide sous un vent glacial. Pas de vice-président Mike Pence, aucun soutien républicain de poids, tous déjà au Capitole hein, pour l'intronisation en cours de Joe Biden. Mais en effet, ce discours d'au revoir avait tous les accents d'un discours de campagne. Donald Trump y a défendu jusqu'à la dernière seconde son bilan. Extraordinaire à tout point de vue. L'économie, bien sûr, des chiffres records. On l'a redressé 2 fois avant et après le virus chinois. Si la situation continue de s'améliorer, dit Trump, souvenez-vous que ce sera grâce à nous. Donald Trump a aussi vanté le miracle médical des vaccins anti-Covid obtenu en un temps record. Fait rare, il a d'ailleurs rendu hommage aux victimes du Covid et à leurs familles, ce qu'il n'avait même pas fait la nuit dernière dans son dernier discours au sein de la Maison-Blanche. Il n'aura en revanche jamais cité le nom de Joe Biden, qu'il n'a toujours pas félicité hein, de sa victoire comme le veut la tradition. Il lui souhaite quand même chance et succès. Et il lui a laissé une lettre dans le bureau ovale, on l'a appris ce soir, comme le vaut un autre usage. On ne sait pas encore ce qu'il y a écrit. Mais voilà, je me battrai pour vous, ce n'est qu'un au revoir. Clairement, Donald Trump n'a pas l'intention de déserter la scène politique américaine. Et comme si sa campagne n'allait finalement jamais prendre fin, il a quitté l'estrade une dernière fois au son qui a accompagné tous ses meetings l'an passé. YMCA des Village People.
Le revoir donc de Donald
voilà,
Trump.
Voilà, musique plutôt Thomas étonnante Mal. D'ailleurs pour un conservateur, les Village People. Mais c'est le choix de Donald Trump. Je serais assez curieux d'ailleurs de voir le mot qu'il a laissé à son successeur Joe Biden. On aimerait bien évidemment être des petites souris. Vous restez avec nous évidemment jusqu'à 20h pour notre édition spéciale en direct de Washington avec nos invités. Et une invitée exceptionnelle justement à 18h20, Marie Trump, la nièce de Donald Trump. Elle le connaît mieux que personne. Elle sera avec nous dans quelques instants.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal, 18h11, édition spéciale évidemment consacrée à l'investiture de Joe Biden. Dans un instant, Marie Trump, la nièce de l'ancien président, sera notre invitée. Mais d'abord, un mot évidemment de la situation sanitaire en France, car les chiffres ne sont pas bons.
Oui, avec toujours cette question, hein, toujours la même. Un troisième confinement est-il inévitable? Et si oui, à partir de quand? Pas pour tout de suite, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement.
Les premières tendances issues des départements qui sont passés à 18h au 2 janvier tendent à montrer un impact positif sur la circulation du virus dans ces départements, mais les résultats sont trop partiels à ce stade et doivent évidemment se confirmer. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas d'évolution des restrictions nationales cette semaine, comme l'a annoncé le Premier ministre. Nous avons avancé le couvre-feu à 18h pour 2 semaines. Nous donnons sa chance à ce couvre-feu.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui nous dit donc qu'il n'y aura pas de nouvelles restrictions annoncées en tout cas cette semaine.
Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir.
Pas cette semaine, sans doute, mais ce matin on entendait sur Europe 1 qu'on ne devrait pas y échapper à ce troisième confinement. Ouais. Les autorités ont le nez en ce moment sur les chiffres et on peut voir le verre à moitié vide ou bien à moitié plein.
Oui, regardons d'abord le verre à moitié plein. On reste sur un plateau haut, autour de 20 000 contaminations par jour. Mais si on se compare avec les autres pays européens, notre situation n'est pas si dramatique, sauf que on peut aussi voir le verre à moitié vide car le variant anglais va très certainement changer cette période de stabilité. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 200 à 300 nouveaux cas par jour de ce variant, ce qui représente à peu près 1,4% des tests PCR positifs actuellement. Et comme ce virus est beaucoup plus contagieux, les projections dans les prochaines semaines sont assez pessimistes, comme l'explique Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'INSERM.
Avec 1,4% de présence de variants sur le territoire français en début de l'année, on peut avoir une croissance qui va aller assez vite dans les semaines à venir, en doublant chaque 8 à 11 jours, donc se retrouver dans une situation où ces variants deviennent dominantes déjà fin février, début mars.
Une situation d'autant plus pessimiste qu'il y a très peu de marge dans les hôpitaux français. Actuellement, 25 000 personnes sont hospitalisées à cause du Covid et 2 800 patients sont déjà dans les services de réanimation. Et si le variant anglais se propage comme le prévoient les projections de l'INSERM, ça voudrait dire que le nombre actuel d'hospitalisations pourrait doubler d'ici la fin février, si et seulement si aucune mesure politique plus restrictive n'est prise d'ici là.
Merci beaucoup Victor Delande. Et à l'instant, le secrétaire d'État au tourisme confirme que les remontées mécaniques des stations de ski ne rouvriront pas le 1er février et que le secteur, dit-il, s'oriente vers une saison blanche.
Eh bien voilà une nouvelle qui ne devrait pas les ravir, nos amis professionnels de la montagne. Emmanuel Macron, pendant ce temps, se rendra demain à l'université de Paris-Saclay pour évoquer notamment le malaise des étudiants face à la crise du Covid.
Le malaise qu'ils ont exprimé aujourd'hui en descendant dans les rues de plusieurs villes de France.
L'audition aujourd'hui d'Edouard Balladur devant la Cour de justice de la République.
L'ancien Premier ministre jugé, vous le savez, pour des soupçons de financement occulte de sa campagne de 95, affaire fondée sur des rumeurs et des accusations mensongères, dit-il. Il a clamé longuement son innocence, on y reviendra à 19h avec Louis Triomphe.
Et puis les sports, Isabelle, avec en ce moment un match important pour les Bleus du handball.
France-Algérie, le coup d'envoi a été donné à 18h. Les Bleus abordent le tour principal face à l'adversaire le moins fort du groupe. C'est donc le moment d'assurer, sauf que pour l'instant, Axel May, ils n'assurent pas trop.
Oui, c'est pas terrible. Après bientôt un quart d'heure de jeu, les Français sont menés 8-5 par les Algériens, équipe sans grande référence au niveau international, entraînée toutefois par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine, Alain Porte, et donc les Algériens qui font depuis le début la course en tête. On le rappelle, en théorie, ils devraient s'imposer, les Français, pour continuer leur marche en avant et espérer se rejoindre ensuite les quarts de finale.
Merci Axel May.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel de l'info et à 19h pour un point complet, notamment sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On va continuer d'en parler. En attendant, on fait un point sur la météo avec Anissa qui nous a retrouvés. De la pluie et du vent. Voilà à peu près le programme de demain.
Oui, ça va souffler encore demain, Julien, avec 5 départements placés en vigilance orange, vent fort par Météo France. Le Rhône, la Haute-Loire et la Loire, ça c'est depuis ce midi. Nous avons quand même eu des rafales à plus de 110 km/h sur Lyon aujourd'hui. Donc ça a soufflé très fort.
Sans trop de dégâts, a priori.
Sans trop de dégâts, ouais. S'ajoutent le Nord et le Pas-de-Calais pour demain, où dans les prochaines heures, le vent va se lever. L'Île-de-France, la région parisienne, est également concernée avec des rafales ce soir, cette nuit et demain matin à 70-90 km/h. Demain matin, c'est sur les côtes de la Manche et le Grand Est que le temps est le plus venteux. Dans la moitié sud, le ciel reste gris avec des averses. Et puis nous avons une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est, avec en plus du vent, de la pluie pour tout le monde au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. Voilà, si vous êtes concerné, parapluie obligatoire. Les températures, elles sont douces, 2 à 11 degrés demain matin, c'est en Alsace qui fera le plus frais, et 9 à 17 degrés demain après-midi, 10 à Lille, 12 à Paris, 14 à Bordeaux, et 17 la maximale pour Bastia.
Et à Washington, ça donne quoi?
À Washington, c'est gris, mais c'est calme.
Bien joué, bien rattrapé. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo à 18h30.
Europe 1, écoutez le monde changer.